Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Réussir ma vie, l'émission qui vous aide à ne pas la gâcher en la vivant pour Dieu parce que c'est pour lui que nous existons. Aujourd'hui, on est dans le troisième épisode de la série La méthode RMV, dans laquelle on voit épisode après épisode chacune des étapes de cette méthode qu'on a débutée et qui j'espère vous avez débuté aussi dans votre vie. Alors ce matin, je suis toujours pas seul et je suis accompagné de mes amis Salvatore, Adrien et Jonah. Salut les gars.
Bonjour. Bonjour.
Donc pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, la méthode RMV, c'est ce programme qu'on a lancé il y a quelques semaines maintenant et qui est composé de 8 exercices qui se font pendant un total de 80 minutes, 45 minutes ou 120 minutes en fonction du niveau que vous sélectionnez. Et on est convaincus qu'il est capable de transformer ce programme vos vies radicalement. Parce qu'au bout de ce temps-là, bah c'est vraiment vos habitudes qui vont changer et votre proximité avec Dieu qui va vraiment grandir. Et donc, on est tellement convaincu que cette méthode, que ce programme peut vous aider à bouleverser, révolutionner littéralement vos journées et finalement donc vos vies. Parce qu'on croit que pour réussir sa vie, il faut réussir ses journées. Et pour réussir ses journées, il faut réussir ses matins. Et c'est là que cette méthode, que ce programme se déroule, le matin. Alors, je voulais juste prendre le temps, avant de commencer cet épisode, ce troisième épisode, de vous encourager, de vous réencourager par rapport à la méthode RMV. Et je voulais vous partager ce verset sur lequel je suis tombé il y a quelques jours, dans Ésaïe chapitre 6. C'est littéralement cet appel que Dieu lance. Et je le lis avec vous, ça dit, Ésaïe écrit « Alors j'ai dit malheur à moi parce que je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Puis j'ai entendu le Seigneur dire, écoutez bien, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu « Me voici, envoie-moi Seigneur. » Et quand j'ai lu ce verset, je me suis vraiment dit « Mais cette méthode-là, RMV, ce programme, qu'on fait quotidiennement, c'est vraiment un moyen pratique, concret, de dire à Dieu, Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est un moyen de se rendre disponible quotidiennement. Et je voulais juste vous encourager à ça. Si vous avez commencé ou si vous n'avez pas encore commencé, que vous êtes intéressé par débuter ce programme, de vous dire, en commençant cette méthode RMV, c'est un moyen concret de dire à Dieu, Seigneur, me voici, utilise-moi pour faire ce que tu veux de moi, ce que tu veux de ma vie. Envoie-moi, je suis disponible.
J'aime beaucoup cette phrase où Ésaïe dit « J'ai entendu le Seigneur dire ». La question, c'est depuis quand le Seigneur appelait Ésaïe ? Depuis quand le Seigneur nous appelle ? Sommes-nous prêts à écouter ? Et je crois qu'effectivement, cette méthode nous permet d'être à l'écoute de Dieu, d'entendre cette voix, et non seulement de l'entendre, mais de pouvoir dire « Me voici, Seigneur, je suis prêt.
Amen.
Envoie-moi. »
Amen. Et vraiment dans la continuité de ce que vous dites, les frères, je pense à ce verset dans Matthieu, très célèbre en fait, mais une première partie plus célèbre que l'autre. Dans Matthieu 11, au verset 36, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Généralement, c'est la phrase que la partie du verset qu'on connaît tous. Mais il y a l'autre partie qui est importante et qui nous parle ce matin, c'est « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Il faut savoir que le joug, c'est un instrument, un outil agricole, c'est placé sur les bœufs pour les amener à pratiquer ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire labourer les champs, etc. C'était une charge très très lourde, c'était pour les guider en fait. Et donc ce verset cette partie du verset, la partie B, qui est souvent négligée, par les chrétiens, c'est vraiment, elle est tellement parlante pour notre méthode RMV, c'est vraiment se dire, mais comment j'ai accepté d'être le disciple de Christ, c'est pas juste quand ça m'arrange, parce que maintenant j'ai son joug sur mes épaules, et je suis donc ses directions, sa volonté, ses désirs, ses rêves, ses aspirations pour moi, et je décide donc de me mettre à son école. Je suis son disciple, il est mon maître, et donc je le suis. Même si des fois je ne le comprends pas, même si des fois c'est pas facile, c'est inconfortable, c'est même douloureux, mais je crois que Dieu est bon et que le suivre, faire sa volonté, c'est vraiment pour mon bien qu'il me le demande et ça va le glorifier.
Totalement, c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment de tout notre cœur à prendre cette décision de prendre un temps chaque matin pour vraiment utiliser, pratiquer cette méthode qui va vous, vraiment vous amener à non seulement être disponible, mais en plus de ça, à porter le joug de Christ. Et donc, il s'agit du troisième épisode aujourd'hui de la série sur la méthode RMV. Et l'étape de la routine sur laquelle on va se pencher ensemble aujourd'hui, elle me tient particulièrement à cœur parce qu'il s'agit de l'étape de l'action de grâce. C'est la troisième étape dans la méthode RMV et c'est l'étape qui suit la lecture et la mémorisation de la parole de Dieu. Alors peut-être que la première fois que vous avez lu Action de grâce, que vous avez vu que c'était la troisième étape, vous vous êtes peut-être demandé à quoi ça correspond exactement, l'action de grâce, ça veut dire quoi? Justement, les frères, peut-être que je peux vous poser cette question, comment, à votre avis, vous définiriez l'action de grâce?
Je crois qu'on peut dire très simplement que l'action de grâce, c'est la reconnaissance. Il y a une nuance entre reconnaissance et action de grâce. L'action de grâce, c'est la reconnaissance, mais pas n'importe quelle reconnaissance, la reconnaissance envers Dieu, d'abord. Si tu regardes à tous les programmes de développement personnel, il y a toujours la reconnaissance. Faut être reconnaissant envers l'univers, il faut être reconnaissant envers la terre, être reconnaissant envers la nature. Pour moi, c'est un peu comme si je disais que je devais être reconnaissant envers mon PC de me fournir les notes qui me permettent de vous parler. C'est moi qui ai encodé les notes. Et donc, être reconnaissant envers l'univers, ça n'a pas de sens. On est reconnaissant envers le créateur de l'univers pour l'univers. Mais on est toujours reconnaissant envers Dieu. Donc, clairement, la reconnaissance, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, c'est la reconnaissance, mais la reconnaissance envers Dieu. Et peut-être ce qui nous vient le plus facilement en tête lorsqu'on pense à l'action de grâce, bien c'est de remercier Dieu. Mais en réalité, remercier Dieu, lui exprimer notre gratitude, c'est plus qu'une forme de politesse. La gratitude fait même partie, je pense, de l'identité de ce qu'est un chrétien, sauvé, réconcilié avec Dieu, né de nouveau. Il y a cette dimension où spontanément on vient, où on revient vers Dieu à chaque jour, à chaque matin, grâce à cette méthode, eh bien pour lui dire merci pour ce qu'il fait, pour qui il est. Je pense à cette histoire qu'on trouve dans Luc chapitre 17, Jésus qui va guérir 10 lépreux, et pourtant un seul revient vers lui, pour lui exprimer l'action de grâce, pour lui exprimer la reconnaissance. Et la différence, c'est que les 9 ont reçu la guérison, mais le dernier qui est venu a reçu la guérison et le salut. Jésus va lui dire, relève-toi, va parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Donc on a 10 personnes qui sont guéries, mais une seule est sauvée, celle qui manifeste sa reconnaissance. Et je crois qu'il y a un principe. Si tu attends que ta vie soit parfaite avant d'être reconnaissant, eh bien, avant de te réjouir, tu risques d'attendre longtemps et finalement de ne jamais être reconnaissant. Et j'aime voir cette dimension, cet enseignement finalement dans le caractère de Dieu, dans la façon d'agir de Dieu lui-même. Une des choses que Dieu nous enseigne, c'est comment être reconnaissant quand les choses ne sont pas parfaites ou quand les choses ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient. Peut-être les 10 lépreux, les 9 qui ne sont pas revenus, n'ont pas jugé bon d'exprimer leur reconnaissance parce que oui, ils étaient guéris de la lèpre, mais ils étaient toujours pauvres ou ils étaient toujours malheureux. Donc pourquoi et à quoi bon exprimer ma reconnaissance? Ma vie n'est pas encore parfaite. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Dieu n'attend pas que sa création soit parfaite pour exprimer sa reconnaissance. En Genèse chapitre 1, verset 1, on connaît tout ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. La beauté de la nature n'était pas encore là. La végétation n'était pas encore là, les étoiles n'étaient pas là, les animaux n'étaient pas encore là, les océans n'étaient pas encore là. Il y avait juste un abîme, du vide, du chaos, mais il y avait de la lumière. Et Dieu voit la lumière et il dit que cela était bon. C'est un enseignement sur comment il faut être reconnaissant quand les choses ne sont pas encore parfaites, quand nos vies ressemblent à un chaos parfois. Dans la méthode, dans cette méthode, on encourage chacun à louer Dieu, même quand les choses ne sont pas encore comme on voudrait qu'elles soient, pas encore terminées, même quand tout n'est pas exactement à sa place. On exprime notre reconnaissance à Dieu.
Je veux revenir un peu en arrière par rapport à l'histoire que tu as soulevée de Luc 17, cette histoire donc qui mentionne la guérison de 10 lépreux, seulement un revient. Et la Bible mentionne que celui qui revient est un Samaritain. Et c'est intéressant que c'est ce Samaritain qui a exprimé sa reconnaissance, alors que Jésus est juif, et on sait, quand on connaît le contexte, que les Samaritains et les Juifs, c'était complètement des ennemis. Donc, il pratique littéralement une action qui est contre sa nature, contre sa culture, contre son éducation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, normal, qui est aisé. On peut vraiment se mettre à sa place, ça a dû être difficile, parce que c'est s'humilier devant son ennemi qui a écrasé son peuple pendant des années, des siècles. Mais il y a eu cette dimension de « je vais le faire » parce que vraiment, il y a cette bénédiction qui est plus grande et je veux exprimer ma reconnaissance. Et c'est même très intéressant de voir qu'il se prosterna au pied de Jésus. C'est pas juste à demi-mot « merci hein. ». Et puis il repart, il y a vraiment cette attitude où il s'humilie et il se prosterne et il le remercie de tout son cœur.
À travers ce texte, on peut juste supposer que Jésus aurait voulu que les 9 autres aient la même réaction que le Samaritain. Et à travers ça, on peut constater aussi que la foi de ces 9 autres personnes-là sont un peu une foi superficielle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et contrairement à l'autre qui, lui, dans sa foi, va exprimer justement une gratitude. Maintenant, je ne veux pas dire ce que je n'ai pas dit et démontrer que c'est la gratitude qui va sauver. Au contraire, je pense juste que quand tu as une foi sincère et vraie, je pense que la gratitude vient juste découler par la suite. C'est juste un fruit de l'esprit, un fruit qui s'écoule de la foi. Et exprimer ta gratitude à Dieu t'aide à trouver davantage de joie en lui. Et quand tu prends plaisir en Dieu, tu le glorifies. Car de par sa nature même, la gratitude glorifie celui qui donne. D'après vous, à quel moment on peut constater la plainte et l'ingratitude dans nos vies?
Mais tu sais, je pense que quelque chose qu'il faut souligner, c'est que, bibliquement parlant, un chrétien ingrat, c'est ce qu'on appelle une oxymore. Une oxymore, c'est deux termes qui sont opposés l'un et l'autre. Par exemple, c'est comme si je disais un soleil ténébreux. C'est une oxymore, c'est opposé. Ben, la même façon, dire qu'un chrétien est ingrat, c'est aussi une oxymore. C'est deux termes qui sont opposés. Le chrétien ne peut pas être ingrat par définition parce que la gratitude découle de la nouvelle naissance. C'est l'une des vertus même chrétiennes les plus agréables. Mais comme tu l'as souligné, Adri, la nature pécheresse, elle rend le cœur humain si ingrat qu'il nous est nécessaire d'apprendre la gratitude et de l'entretenir avec beaucoup d'efforts, comme finalement ce Samaritain, pour lequel c'était, comme tu dis, pas naturel, de par sa culture, de son histoire, tout ça, d'exprimer sa gratitude envers Jésus, mais il a pris la peine de le faire, de faire marche arrière et de revenir vers Jésus, vers celui qui l'avait guéri, et de lui exprimer sa gratitude. Et de la même façon, pour nous, c'est peut-être pas naturel, c'est peut-être pas dans notre nature humaine d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance envers Dieu, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre et qu'on doit s'exercer à faire avec beaucoup d'efforts.
Oui, la méthode RMV a été mise en place justement pour amener les chrétiens à être des chrétiens forts, plus des chrétiens faibles. Et quand tu parles d'oxymore, il y a plein d'autres oxymores dans la vie chrétienne des chrétiens faibles. Il y a ce qu'on peut appeler un chrétien négatif, un chrétien pessimiste ou un chrétien incrédule. Ce sont également des oxymores. Par définition, le chrétien n'est pas incrédule, il marche par la foi. Et cette foi-là lui permet de voir toujours le verre à moitié plein et non à moitié vide, d'où cette positivité, cet optimisme qui doit caractériser vraiment un disciple de Christ.
Mais est-ce qu'en réalité, dans la vie du chrétien, le verre n'est pas réellement rempli et même débordant? Et on n'est pas capable de le voir, on n'est pas capable de l'apprécier. Je vois ça dans ma propre vie. Le nombre de fois, en réalité, être reconnaissant demande de l'intentionnalité, de la volonté. Et souvent, on le voit beaucoup plus facilement dans la vie des autres. Le nombre de fois où tu es dans un échange et là, tu es dans la positivité, tu es dans la joie, tu es dans la reconnaissance et la personne en face n'a pas forcément développé cette habitude-là et tu le vois très facilement. Une personne qui va avoir des paroles de mort, des paroles décourageantes où elle va toujours voir le côté négatif des choses, ce qu'on voit chez l'autre finalement n'est qu'un miroir. Et en réalité, ce genre de paroles-là qui sont des paroles décourageantes, des paroles négatives proviennent d'un cœur qui n'a pas développé la reconnaissance, l'action de grâce envers Dieu.
Oui, en effet, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous apprend la parole. Mais quand je pense au thème de l'action de grâce, je pense automatiquement au fait de reconnaître les œuvres de Dieu dans nos vies. Et par là, j'entends réellement autant les œuvres, les bénédictions temporelles, les bénédictions que Dieu nous donne dans nos vies, ces grâces communes comme un toit à manger, la santé, des amitiés, une famille, etc. Mais également les, ces bénédictions spirituelles qu'on perd peut-être de vue, mais que la Bible nous rappelle. Donc, qui touche un peu en fait à cette espérance que Dieu nous donne en tant que chrétien, à cette joie surnaturelle qui ne dépend plus des circonstances, mais aussi reconnaître les œuvres de Dieu dans nos vies, c'est reconnaître en fait le caractère de Dieu. Qui est Dieu ? Reconnaître qu'il est juste, qu'il est souverain, qu'il règne en toutes circonstances, même si on n'en a pas l'impression, reconnaître qu'il est présent, même si on ressent à l'intérieur de nous, même quand on prie, qu'il est comme absent, mais il est au fond, nous dit la Bible, toujours présent à nos côtés. Et donc, ça me fait penser à ce texte dans Psaume, au chapitre 139, verset 14. « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et on croit que Dieu se révèle comme étant souverain, c'est-à-dire qu'il est celui qui écrit l'histoire.
C'est vraiment ça. Et je trouve que autant on a tendance à utiliser le terme de reconnaissance pour parler de l'aspect, comme on l'a évoqué juste avant, la partie gratitude, où on exprime notre gratitude envers Dieu, on remercie Dieu. Mais aussi, c'est vrai que le terme de reconnaissance, ça peut aussi vouloir dire le fait, comme tu l'as souligné ici, l'aspect de reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie, qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Et moi, je me dis, tu sais, tu parles de souveraineté de Dieu. Je me dis que rien n'arrive sans que la volonté de Dieu ne soit directement impliquée. Et bien sûr, je ne dis pas que l'homme n'a aucune part à jouer là-dedans, on le verra juste après, mais il est bon, comme tu dis, Adri, de prendre un temps pour reconnaître l'action de Dieu, l'identité de Dieu dans notre vie. Prendre un temps pour reconnaître aussi la seigneurie de Christ. De dire, Seigneur, c'est grâce à toi si je vais bien. C'est grâce à toi si je suis en bonne santé, je le reconnais bien. C'est grâce à toi si mes enfants vont bien. C'est grâce à toi si j'ai un travail, si j'ai un toit. Tout ça, c'est grâce à toi, c'est toi qui me l'as donné. Parce que nourrir cette attitude-là de reconnaissance, en fait, elle va nous conduire à garder confiance en Dieu, même quand les circonstances, justement, vont s'inverser, vont se compliquer. Et si tu appliques la reconnaissance, si tu t'appliques à reconnaître que Dieu dirige tout, que tu es son enfant et qu'il est donc digne de confiance, mais quand tout va aller mal dans ta vie, quand les circonstances vont littéralement s'inverser, ben tu pourras te rappeler de cela, de ces vérités finalement, que Dieu reste Dieu et que tu n'as pas à t'inquiéter, que tu es son enfant et que notre rôle finalement consiste juste à rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et c'est vraiment cette notion de se rappeler que c'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est lui qui écrit la suite de ma vie, l'histoire est l'histoire de Dieu, pas la mienne. Et moi, je suis son enfant, alors qu'importe si les circonstances sont même humainement dramatiques, mais je sais que d'une façon ou d'une autre, ça ne peut que aller pour mon bien. Parce que quand on se sent reconnaissant, ben, on reconnaît notre besoin et finalement la bienfaisance de Dieu, la plénitude de Dieu, la richesse de sa gloire. Finalement, une vie qui donne gloire à Dieu pour sa grâce et une vie de joie profonde, ben, sont la même vie. Et ce qui unit ces deux choses-là, ben, c'est la reconnaissance. Finalement, la reconnaissance, elle empêche l'orgueil de grandir.
L'orgueil, c'est vrai, mais aussi le découragement. Parce que je pense que quand tu es reconnaissant, ça te permet de focaliser, ça te permet de voir, de littéralement de changer ton regard sur la vie, sur les choses, sur les gens. Et donc, ça te met dans une position. Et donc, ça te place en position de dire merci plutôt que de te plaindre. C'est vraiment l'attitude opposée de ce que peut être le découragement et évidemment, comme tu le disais, l'orgueil.
Et contre toute attente, c'est justement dans nos périodes de souffrance, dans nos périodes de difficulté, que l'on peut apprendre à, comme tu le disais, avoir ce changement de perspective par rapport à ce qu'on vit et à sortir de ce découragement, de cet orgueil et de s'humilier, de dire « Seigneur, vraiment, je reconnais que malgré tout cela, tu es avec moi, tu m'accompagnes et que même si mes yeux ne le voient pas encore, juste, je m'accroche à tes promesses et je sais que du bon va ressortir de cela. » Et c'est vraiment pas un réflexe naturel, parce que généralement, justement, dans la souffrance, on a plutôt tendance à s'enorgueillir, c'est-à-dire à se tourner vers nous-mêmes pour trouver des solutions, et ou à se décourager. Et là, le réflexe de l'action de grâce, de la reconnaissance, ben, est clé. Et voilà pourquoi, vraiment, on vous propose cette méthode RMV dans laquelle on insère cette pratique, cet exercice, parce que malgré ce que vous allez traverser, vous allez vous être intentionnel à, malgré tout cela, ben, manifester de la reconnaissance.
Ouais, et il y a aussi justement un troisième axe que je vois dans l'action de grâce, On peut dire que l'action de grâce, c'est d'abord exprimer sa gratitude envers Dieu, mais c'est aussi, comme on vient de le dire, reconnaître l'action de Dieu dans notre vie. Et cette deuxième étape-là, cette deuxième axe-là de reconnaître l'action de Dieu dans notre vie, c'est quelque part reconnaître la part que Dieu a dans notre vie. Mais la troisième chose que je vois dans l'action de grâce, ça nous amène plutôt à pratiquer notre part à nous, la part du chrétien. Et cette troisième direction dans l'action de grâce, pour moi, c'est vraiment la repentance. Quand on parle d'action de grâce, en fait, on parle aussi de repentance, du fait de se repentir. En réalité, repentance, gratitude ou reconnaissance, ou même encore adoration, ce sont des termes qui sont extrêmement liés. Parce que comme la gratitude, la repentance, elle constitue la réponse du chrétien régénéré au message de l'évangile. Si je devais le définir en une phrase courte, je prendrais la définition que Mike Lawrence dit à propos de la repentance. Il dit que la repentance, c'est la conviction qui vient du Saint-Esprit de l'horreur de nos péchés. Et ce n'est pas l'horreur de nos actes mauvais, mais de la traîtrise de nos cœurs envers Dieu. En fait, la repentance, c'est haïr ce que nous aimions et servions autrefois, que Paul, l'apôtre Paul appelle nos idoles, littéralement, et de nous en détourner. C'est vraiment ce que l'apôtre écrit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Il dit « On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tournez vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. »
C'est assez rare d'entendre parler de repentance comme en lien avec la reconnaissance, l'action de grâce. Et pourtant, c'est tellement vrai. En soi, la repentance, c'est une réorientation de notre adoration. Quand on se repent, notre cœur se détourne de l'adoration de ce qui prenait la place de Dieu, les idoles, pour se tourner vers Dieu, pour venir vers la vraie adoration du vrai Dieu. Donc la vraie repentance, avant d'être un changement de comportement, c'est d'abord un changement d'adoration. Ce n'est pas d'abord nettoyer notre vie, mais c'est nettoyer notre cœur. C'est changer l'orientation de notre adoration, de ce qu'on chérit, de ce qui nous procure la satisfaction, l'épanouissement, la joie profonde pour mettre Dieu à cette place-là. Et peut-être la question à se poser, c'est quelle est la place de la repentance dans nos vies? Est-ce que la repentance ne devrait pas être en réalité faire partie de la vie du chrétien? On dit même que la repentance est un style de vie pour le chrétien.
La repentance, c'est un style de vie, mais j'ai l'impression qu'on a l'habitude de dire ça comme un cliché, alors que c'est une réalité. Dans le Notre Père, donc c'est une prière que Jésus nous donne comme un modèle pour nous, chrétiens. Il a inclus cette phrase qu'on connaît tous, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Pourtant, est-ce que la repentance a cette place-là, comme dans le Notre Père, dans mes prières quotidiennes? Ou est-ce que c'est plutôt une pratique un peu désuète, même ringarde et même inconfortable, avec laquelle on s'est repenti mais de nos péchés en donnant notre vie à Christ, et puis c'est bon, basta. Alors que ça doit vraiment être une prière de tous les jours.
Personnellement, quelque chose que je ne me rendais pas compte avant de pratiquer la repentance dans la méthode RMV, c'est que j'avais tendance à me repentir finalement pour des choses flagrantes, des péchés flagrants que je commettais pendant la semaine, pendant la journée, mais moins pour des choses plus profondes. Et c'est au moment où j'ai commencé à pratiquer la repentance, à m'exercer à la repentance quotidiennement, que je me rends compte qu'en fait, pendant la journée, il y a plein de moments où mon adoration se détourne de Dieu pour aller vers autre chose, que ce soit en acte, en pensée, en parole. Et en fait, le fait de pratiquer la repentance quotidiennement m'amène à tous les jours réorienter mon adoration et à revenir d'une façon plus précise que de façon juste superficielle et vraiment de quotidiennement revenir à Dieu et changer mon adoration finalement.
Pendant toute une période de ma vie, la repentance n'avait aucune place dans mes temps de prière. Et la raison est que je ne voyais pas le péché. Je ne voyais pas pourquoi je devais demander pardon à Dieu. Et c'est un danger qui est dû à un manque de sanctification. Dans son essence, la sanctification, c'est avancer dans la conscience de plus en plus pointue de ce qu'est le péché. Pourquoi c'est grave de ne pas voir le péché? Parce que si tu ne vois pas le péché, tu ne repens pas. Et tu as besoin constamment de revenir vers Dieu dans la repentance. Et une des raisons pour lesquelles cette méthode est encouragée pour tous les chrétiens, c'est parce qu'elle te rapproche de Dieu. Et plus près tu es de Dieu, plus tes yeux sont ouverts sur ta propre vie, sur ton péché, sur ce qui déplaît à Dieu, et donc te conduit à te repentir.
Te conduit à te repentir et au final à dépendre encore plus de Dieu et à exprimer ton besoin d'être comme tout le temps au pied de Jésus, au pied de Dieu, et de le laisser lui guider ta vie, guider tes choix, parce que sans ça, c'est juste bancal en fait.
Puis comment ouvrir les yeux sur notre péché? En plongeant nos regards juste avant, dans la méthode RNV, dans la parole de Dieu, et en prenant ce temps-là de méditer, de mémoriser la parole. Et à titre d'exemple, lorsque je lis l'Ancien Testament, qui peut des fois être vraiment difficile, je me vois vraiment dans le peuple d'Israël et je vois à quel point mon cœur, c'est comme Timothy Keller le dit, c'est une fabrique à idoles. Tellement facile de commencer à partager le trône de mon cœur entre le Seigneur et d'autres choses. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être ma famille, mon fils, ma femme. Et puis, en fait, en plongeant mes regards dans la parole de Dieu, j'identifie et je me reconnais, je m'identifie à ce peuple et là je m'incline devant Dieu et je me repens. Seigneur, je renonce à ces idoles. Seigneur, je veux réellement reconnaître que tu es le seul et unique Seigneur et je prie que tu viennes régner vraiment dans ma vie. C'est le type de prière, je pense, qu'on doit prendre l'habitude de faire et que RMV nous invite à faire quotidiennement.
Et c'est vraiment pour toutes ces raisons que non seulement l'étape de l'action de grâce est indispensable dans la méthode RMV, mais c'est aussi pour cela qu'elle constitue la troisième étape de la méthode. Je rappelle les deux premières qui étaient la lecture et la méditation, la mémorisation surtout. Toutes les prières devraient commencer par un temps d'action de grâce. Un modèle de Jésus, comme disait Adri tout à l'heure dans le Notre Père, une action de grâce, c'est le moment où tu vas prendre X minutes en fonction du niveau que tu as choisi, 40, 80 ou 120, où tu vas exprimer à Dieu là ta gratitude. Tu vas aussi reconnaître son œuvre dans ta vie et où tu vas prendre un temps de repentance. L'action de grâce, en une phrase, c'est quoi? C'est reconnaître la grâce de Dieu. Se détourner de ce que nous adorions autrefois pour se tourner vers lui tout en lui exprimant notre gratitude.
Je pense vraiment à cette citation de John Bunyan qui parle de l'action de grâce et qui dit « Avant de commencer à prier, pose ces questions à ton âme. » Et les questions, les voici. Dans quel but, ô mon âme, t'es-tu retiré en ce lieu? N'es-tu pas venu pour converser avec le Seigneur dans la prière? Est-il présent? T'entendra-t-il? Est-il miséricordieux? Te viendra-t-il en aide? Ton sujet de prière est-il insignifiant? Ne concerne-t-il pas le bien-être de ton âme? Quelle parole utiliseras-tu pour qu'il soit ému de compassion? Pour achever ton questionnement, réfléchis au fait que tu n'es que poussière et cendre et qu'il est le grand Dieu. C'est la reconnaissance, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se couvre de lumière comme d'un vêtement. Tu n'es qu'un vil pécheur, et là on est dans la repentance, et lui le Dieu saint. Tu n'es qu'un pauvre ver de terre, et lui le Créateur omnipotent. Dans toutes tes prières, ne manque jamais de remercier le Seigneur. Là on a la gratitude pour ses compassions. Lorsque tu pries, mieux vaut un cœur sans parole que des paroles sans cœur, où la prière aura pour effet qu'un homme cessera de pécher, où le péché aura pour effet qu'un homme cessera de prier.
Et donc le but de cette étape est d'appliquer une pause de prière, une pause journalière de louange. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, dira le psalmiste, louez l'Éternel. Je crois que Dieu change nos standards de reconnaissance. Que tout ce qui respire, c'est comme une réinitialisation de nos standards de reconnaissance. La Bible dit pas que tous ceux qui partent en vacances louent l'Éternel. La Bible ne dit pas que tous ceux qui sont en bonne santé, ceux qui réussissent, louent l'Éternel. Ça dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Juste tu respires, dis merci à Dieu, loue Dieu pour ça. Amen. Juste voir la lumière au milieu des ténèbres et dire merci pour cette lumière-là, même si tout le reste est ténèbres. Je crois que nous devons adopter le standard de reconnaissance de Dieu au lieu d'attendre une autre bénédiction. Si tu respires, si tu as envie, prends le temps de dire merci, d'exprimer ta reconnaissance, car l'Éternel est bon. Alors je sais qu'on attend toujours de grands changements dans nos vies, de grands témoignages, mais nous devons apprendre à être reconnaissants pour le petit truc, la petite chose qui n'a peut-être pas de sens pour les autres, mais toi, tu le sais que ça va dans le bon sens, alors tu t'arrêtes, tu regardes ça, et ça te donne une occasion de rendre grâce à Dieu chaque jour. Apprendre à remercier Dieu pour les progrès et pas seulement pour les résultats. C'est ce qui va te donner l'élan de la louange, de la reconnaissance. C'est comme dire merci au Seigneur pour la course, pas seulement pour la ligne d'arrivée, dire merci à Dieu pour chaque trimestre et pas seulement pour le diplôme obtenu, dire merci à Dieu pour toute chose. Je crois que sans reconnaissance, le découragement gagnera nos cœurs. Mais ce que nous voulons, c'est aller de l'avant, et c'est le but de cette méthode.
Mmh. Et on doit vraiment être intentionnel et faire de l'action de grâce une habitude. C'est s'entraîner à être reconnaissant parce que ça change notre perspective sur les gens et nous permet de leur exprimer aussi notre amour. Change notre perspective sur les choses et nous aide à ne pas courir après les matérialismes, mais vivre le contentement par rapport à ce que Dieu nous donne. Ça change nos matins, nos journées et donc nos vies. Et on l'a dit, même au milieu des circonstances difficiles ou incomplètes, la reconnaissance augmente la joie, augmente la générosité. Et d'un autre côté, les murmures démontrent le manque de reconnaissance, diminuent notre contentement, notre joie.
En réalité, avec cette méthode, vous allez vraiment découvrir à quel point non seulement Dieu est riche en bonté, à quel point nous ne sommes que pécheurs et à quel point Dieu nous a fait grâce de nous pardonner, de nous aimer malgré nos péchés, malgré nos fautes. Et donc, c'est vraiment une étape, l'action de grâce, qui prend tout son sens et qui est même vitale. On ne pouvait pas ne pas mettre l'étape de l'action de grâce dans la routine RMV, dans ce programme Réussir ma vie. Parce que littéralement, prendre le temps de rendre à Dieu ses actions de grâce, c'est ce qui contribue à réussir vos matins, à réussir vos journées, donc à réussir votre vie. Et j'aimerais vraiment terminer par encourager ceux qui n'ont pas encore commencé cette routine, qui n'ont pas encore commencé ce programme de Réussir ma vie, à nous rejoindre tout simplement et même à nous le faire savoir que vous êtes dans le coup, que vous avez commencé. Vous savez, vraiment, le fait de prendre le temps de pratiquer l'action de grâce, ça nous permet de mettre notre foi en pratique. Parce que même si tu ne réalises pas que Dieu t'aime, que Dieu t'a pardonné, que Dieu est riche en bonté, tout ça, mais le fait de quand même le faire, c'est une preuve de foi. Ça montre que c'est écrit que Dieu est grand, que Dieu est riche en bonté, que Dieu m'a pardonné. Alors juste, je le crois parce que c'est écrit. Et quelque part, l'encouragement que je vous donnerais, c'est vraiment faites-le jusqu'à ce que ce soit vraiment le cas, jusqu'à ce que vous réalisiez vraiment que Dieu est vraiment riche en compassion, en bonté, en miséricorde, et qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, comme l'écrit l'apôtre Paul. On vous remercie pour votre écoute. C'était Réussir ma vie, et on vous dit à dans 2 semaines pour un prochain podcast.